Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Adrien Delgrange, ce que disent les uns et les autres, hasard, ce sont des représentants de la majorité de la droite qui s'exprimaient majoritairement aujourd'hui. Et puis nous décrypterons cette parole politique avec vous, Frédéric Michaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études du département Opinion d'Opinionway. Né en France ou de l'autre côté de la Méditerranée, arrivé après ce qu'on appelait la décennie noire ou ces dernières années, un millier d'Algériens se sont rassemblés à Marseille contre une cinquième candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Des drapeaux algériens ont également été brandis cet après-midi, place de la République à Paris. Nombre d'Algériens de France se mobilisent en vain puisque le chef de l'État algérien a annoncé, voilà deux heures de cela, qu'il sera bien candidat à sa propre succession. Adrien Delgrange.
Alors peu de commentaires politiques sur l'Algérie. Aujourd'hui, comme si la question était trop épineuse, nous avons quand même trouvé une réaction du côté de la majorité gouvernementale, celle de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Invitée de France Inter ce matin, réponse plutôt embarrassée au micro d'Ali Badou.
Il y a des élections en Algérie. Bien évidemment, nous n'aimerions pas, nous Français, que des chefs d'État étrangers viennent s'immiscer dans la campagne présidentielle française.
Oh bah vous n'avez aucun problème pour vous prononcer sur la situation politique au Venezuela, par exemple.
Il faut aussi respecter ce qui se passe en Algérie, respecter au sens large du terme, et laisser les Algériens choisir.
Autre réaction, toujours sur la situation algérienne, réaction de l'opposition, cette fois-ci François Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes. Il y a quelques minutes sur LCI, il s'adresse au gouvernement français.
Je crois qu'il est temps de demander aussi au gouvernement de préparer le mieux possible l'action de la France dans l'hypothèse d'une situation de tension en Algérie.
La France doit potentiellement intervenir en Algérie ?
Non, intervenir bien sûr que non. La France doit en tous les cas se préparer à adopter les meilleures décisions possibles pour faire face à ce que signifierait une crise en Algérie qui ne peut pas ne pas concerner notre pays.
Frédéric Michaud, la situation est donc suivie de très près par le gouvernement français qui pour l'instant est sur la ligne ni ingérence ni indifférence.
Oui, exactement. On voit bien dans toutes ces réactions une grande prudence diplomatique parce que les pouvoirs publics français doivent osciller entre deux écueils. D'abord, évidemment, ne pas décourager d'éventuelles volontés démocratiques qui pourraient, d'une certaine manière, être une nouvelle forme de printemps arabe en Algérie. Et puis, de l'autre côté, ne pas déstabiliser le gouvernement algérien. Une déstabilisation qui pourrait avoir des conséquences importante qui pourrait provoquer une onde de choc dans l'ensemble du Maghreb. L'Algérie est un point central au Maghreb et puis qui pourrait même enclencher ou déclencher une crise migratoire en direction de la France. Donc on voit bien que dans les réactions gênées que vous avez diffusées, cette volonté de concilier ces deux éléments.
Frédéric Michaud, directeur des études à Opinionway. Après-demain, dans la presse régionale, Emmanuel Macron publiera une tribune contre le délitement de l'Union européenne. Un signal d'alerte sur une Europe en danger. Ne cédons pas aux sirènes du rejet européen. Voilà ce que devrait écrire le chef de l'État. Et mercredi prochain, ce sera le parti Les Républicains qui détaillera la liste de ses candidats pour le scrutin du 26 mai, élection au Parlement européen. Alors forcément, de ces européennes, il en est question dans le propos de la classe politique aujourd'hui, Adrien.
Alors tout d'abord, Philippe, en milieu de semaine, Emmanuel Macron est allé à Bordeaux prendre notamment le soutien d'un Européen convaincu. Le maire Alain Juppé faisait ses adieux à la ville qu'il a dirigée de nombreuses années avant de rejoindre le Conseil constitutionnel à Paris.
Je crois que c'est une fierté pour beaucoup de Bordelaises et de Bordelais. Je crois que c'est une grande chance pour le Conseil constitutionnel et pour le pays. Et je sais que c'est aussi un grand chagrin pour beaucoup d'élus, beaucoup d'habitants, pour les Bordelaises et les Bordelais, et pour vous aussi. Et donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui et le temps que vous avez donné.
Et puis, la question de l'omniprésence d'Emmanuel Macron dans les médias à quelques semaines des élections européennes a été soulevée. La France insoumise, tout comme le Parti socialiste, RN ou encore Les Républicains, annonce saisir le CSA au sujet du temps de parole du chef de l'État dans les médias, tout comme Éric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis sur Europe 1.
Désormais, nous avons à peu près 3 fois par semaine des heures et des heures d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les chaînes de radio, 15 heures au Salon de l'Agriculture, le grand débat qui se transforme en grande propagande et one-man show.
Vous avez saisi le CSA?
On a saisi le CSA, parce que moi j'entends parfois dire que En Marche n'a pas commencé sa campagne européenne, mais ils sont en plein dedans. Avec le président de la République en tête de liste.
Frédéric Michaud, c'est toujours très difficile de faire le départ, la distinction entre la campagne et l'action politique au quotidien.
Oui, c'est difficile et puis ce n'est pas une nouveauté. Hein. C'est un problème qui est relativement ancien. Vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne présidentielle de 1981, Valéry Giscard d'Estaing se présentait comme un citoyen candidat. Il y a toujours cette ambiguïté en ce qui concerne le président de la République. Est-ce qu'il s'exprime pendant les périodes électorales, j'entends. Est-ce qu'il s'exprime en tant que chef de l'État ou bien est-ce qu'il s'exprime en son nom propre, en tant que chef d'un parti politique ou d'une ligne politique?
Venons-en sur le fond de la question européenne à présent.
Alors, à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Bordeaux cette semaine, nous l'entendions, Alain Juppé s'est exprimé publiquement pour la dernière fois cette semaine en présence du chef de l'État et pour l'occasion, parmi les sujets évoqués, l'Europe.
Je souhaite vraiment de tout cœur qu'à la fin du mois de mai, il y ait un vrai débat européen et un vrai choix proposé aux Français entre ceux qui croient à l'Europe, qui y croient vraiment, et puis ceux qui n'y croient pas vraiment ou qui n'y croient pas du tout. Parce que je crois que plus que jamais, la réponse aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, mais ça passe par plus de solidarité européenne. Donc ça, c'est un vrai débat, j'espère qu'il ne sera pas éludé.
François Bellamy, également tête de liste Les Républicains aux européennes.
De quoi souffrent les Français aujourd'hui? Ils souffrent d'un État qui n'est pas réellement efficace pour servir la maîtrise de leur destin et qui pourtant ne cesse d'être toujours plus lourd et toujours plus pesant. Est-ce que la réforme de l'État a été engagée? La réponse est non. Est-ce que les finances publiques ont été réformées? La réponse est non. Sur tous ces sujets-là, la droite a quelque chose à dire. Et ce sont aussi des sujets européens, permettez-moi de vous le dire, parce que si la France n'arrive pas à se faire entendre en Europe, c'est parce qu'elle est sans doute le pays européen qui n'a pas su se réformer.
Dans la perspective des européennes, Frédéric Michaud, votre institut Opinionway a publié un sondage mercredi dernier. Qu'en ressort-il?
Plusieurs éléments. D'abord, La République En Marche et la liste du Rassemblement National seraient au coude à coude à 22%, ex aequo à 22% si l'élection avait lieu aujourd'hui. Le Rassemblement National reste stable par rapport au mois de janvier. En revanche, La République En Marche progresse de 2 points par rapport au mois dernier, alors même que nous ignorons encore qui sera la tête de liste du parti présidentiel.
On parle d'Agnès Buzyn, on aura la confirmation dans les prochains jours.
Voilà, et puis, mais il y a quand même une petite dynamique autour de cette liste. On voit bien que l'image présidentielle s'améliore un peu. Alors évidemment, sa cote de popularité reste toujours minoritaire, mais elle progresse un peu. Le grand débat s'annonce plutôt comme une réussite. En tout cas, il y a un engouement de la part des Français à l'égard de cette opération. Tout ça se traduit par cette progression de 2 points. Alors, au-delà de ce duel, on a un champ électoral qui est très éclaté, qui est très éparpillé. En troisième position, les républicains
ouais.
À 14% seulement, 14%, donc c'est 8 points derrière, qui a vraiment un fossé. Et puis c'est encore 6 points de moins que le score plancher de François Fillon à l'élection présidentielle, même si l'investiture de François-Xavier Bellamy enclenche une petite dynamique. Là aussi, il y a une progression de 2 points, mais les Républicains sont passés de 12 à 14%.
Alors, puisqu'on parle des Républicains, LR peaufine sa liste et les téléphones portables doivent chauffer au moment même où nous parlons. Le principal problème pour Laurent Wauquiez, c'est de devoir présenter une liste neuve, mais en tenant compte de l'ancien, avec le risque d'annihiler l'effet nouveau du souffle du trio de tête emmené par François-Xavier Bellamy dont vous parliez.
Oui, vous avez raison, c'est toujours le casse-tête de la constitution des listes. Pourquoi ne pas reconduire des députés qui étaient présents dans l'Assemblée sortante et qui ont peut-être bien travaillé, qui ont une expérience. On voit bien aussi les limites de l'inexpérience et du caractère novice. Et puis en même temps, on voit aussi que l'époque appelle du renouvellement, de nouvelles personnalités, des personnalités issues de la société civile. Ça a fait le succès d'Emmanuel Macron, donc il y a là un équilibre difficile à trouver.
Je reviens à votre sondage. Pour ce qui est de la tendance, à gauche, c'est l'éparpillement façon puzzle, pour paraphraser les tontons flingueurs, du côté de la gauche.
Exactement, 6% pour la liste d'Europe Écologie Les Verts, 6% pour la liste du Parti Socialiste, 4% pour la liste de Benoît Hamon, 7% pour la liste de la France Insoumise, hein, qui est le parti qui recule le plus par rapport à l'élection présidentielle. Il y a là, vous avez raison, un véritable éclatement, une désunion de la gauche qui est vraiment caractéristique. On a vu encore très récemment que la tentative de place publique pour essayer de fédérer la gauche était restée lettre morte.
La gauche qui devient une sorte d'archipel, et puis la recomposition gauche-droite ne se refait pas depuis l'élection présidentielle. Hein.
Non, on voit bien que tout le sens de la période que nous vivons depuis quelques années, c'est le passage d'un système dual, gauche-droite, à un système tripartite, avec au centre un bloc, disons, libéral, axé sur la mondialisation, qui est incarné par La République En Marche, qui a fait le plein de tous ses soutiens, vous l'avez encore dit, avec le soutien de centre-droit qui a été apporté de manière implicite par Alain Juppé. À droite, en revanche, un pôle conservateur identitaire qui ne parvient pas encore à s'unir, c'est la fameuse union des droites. Et puis à gauche, la situation est encore plus critique avec cet éparpillement dont nous venons de parler.
Et puis il y a un autre parti, c'est Debout la France. Stéphanie Gibaud figurera sur la liste présentée par Nicolas Dupont-Aignan aux élections européennes. C'est ce qu'a annoncé donc le chef du parti. Stéphanie Gibaud, c'est cette ancienne cadre de la banque UBS hein, qui se revendique comme lanceuse d'alerte dans l'affaire de fraude fiscale qui touche le géant bancaire suisse. Et puis Frédéric Michaud, le parti de Nicolas Dupont-Aignan a également des contacts avec Benjamin Cauchy, un gilet jaune qui n'a pas encore dit s'il se présenterait au suffrage européen. Cette volonté de certains gilets jaunes de se présenter aux européennes, c'est en train de faire pchit. En tout cas, on est en pleine incertitude. Hein.
Pour l'instant, les instituts qui ont testé l'hypothèse d'une liste jaune, ce n'est qu'une hypothèse, d'une liste des gilets jaunes, leur accordent un score qui oscille entre 5 et 6%. Alors, ce serait pas un mauvais score, hein. On se rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait une liste qui défendait des intérêts catégoriels, la liste CPNT, qui avait obtenu plus de 6% des voix et qui avait obtenu 7 députés européens. Mais aujourd'hui, l'émergence de cette liste se fait dans des conditions très difficiles, à tel point qu'on peut douter de la constitution finale d'une telle liste.
J'ajoute que un autre gilet jaune, Christophe Chalençon, qui est à l'origine de plusieurs déclarations controversées, annonce son intention de constituer une liste lui aussi pour le 26 mai. Ce n'est donc pas la première fois hein, qu'une figure de la contestation tente de se lancer dans la course. Il y avait eu Ingrid Levavasseur hein, qui s'y était essayée, mais aucune liste estampillée gilet jaune n'a encore réussi à fédérer les manifestants. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une tête émerge, elle est aussitôt coupée?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un mouvement qui est extrêmement composite, qui agrège des sensibilités très diverses, très contrastées, et de multiples revendications. Et quand une personne tente d'émerger, de fédérer tout cela, ça crée nécessairement des mécontents. Et puis par ailleurs, c'est un mouvement qui s'est structuré contre la politique, contre justement la structuration en formation politique. Et on voit bien que on a soit des leaders qui n'assument pas leur rôle de leader, soit des leaders qui voudraient devenir des leaders, mais qui ne sont pas représentatifs, ou qui subissent des intimidations et qui sont obligés de renoncer à ce rôle de leader potentiel.
Malgré tout, s'il y avait une liste gilet jaune, à qui ferait-elle du tort? À quel parti?
Essentiellement à la liste du Rassemblement National, parce que les soutiens des Gilets jaunes recoupent en grande partie l'électorat du Rassemblement National.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Justement, ces gilets jaunes, ils ont défilé encore hier en rang clairsemé, c'était l'acte 16. Il y a eu quelques heures en région. Au total, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 39 300 manifestants sur l'ensemble du pays, 4 000 à Paris. C'est comme toutes les semaines, moins que le samedi précédent, même si ces chiffres officiels sont régulièrement contestés par les manifestants. Adrien Delgrange.
Alors, plusieurs membres du gouvernement avaient le même mot à la bouche aujourd'hui sur les médias français pour parler de ce mouvement des gilets jaunes. Ils s'étiolent, comme le dit aussi Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, invitée d'RTL ce matin.
D'abord, ce qu'on observe, c'est que ces manifestations, elles s'étiolent. Et je pense que c'est important de le dire, leur nombre, il est complètement décroissant. C'est pas pour moi, c'est factuel. Si on regarde le nombre des manifestants, il est décroissant. Et donc, comme dans tout mouvement, il est décroissant, mais il reste les gens qui sont les plus radicaux et les plus violents.
Sur la radicalité du mouvement, eh bien, ça dépend de quel côté on se place. À Bordeaux, par exemple, le député La France Insoumise, Loïc Prud'homme, accuse la police de l'avoir matraqué alors qu'il quittait la manifestation. Il décide de déposer une plainte devant la police des polices. Voici son témoignage recueilli par nos confrères de France Info.
J'ai juste eu le temps de saisir ma carte de député, de lever les bras et de décliner et crier mon nom et mon identité et ma qualité. Mais rien n'y a fait. On a eu droit quand même une volée de matraque assez violente qui a duré suffisamment longtemps pour qu'on prenne plusieurs coups chacun.
Voilà donc pour ces incidents. Sur le plan des idées maintenant.
Philippe Martinez sur BFM TV soutient la mobilisation des Gilets jaunes, quel que soit d'ailleurs le nombre de participants, et ce malgré les propositions faites par Emmanuel Macron.
Les milliards débloqués, premièrement, c'est pour une partie des décisions qui ont été repoussées, donc c'est de l'argent qui rentre pas, mais c'est pas de l'argent qui est donné. Et puis, sur le SMIC, puisque c'était quand même un sujet important, on a débloqué la prime d'activité, on a avancé des décisions qui étaient prévues en 2019-2020, mais ça ne règle pas le problème des bas salaires dans notre pays. Donc, si le problème était réglé, il n'y aurait plus personne dans les rues.
Alors, autre idée venue de la majorité pour tenter de désamorcer ce mouvement des Gilets jaunes. Écoutez Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, sur Europe 1 ce matin.
Je pense qu'il faut réellement baisser très fortement les impôts sur les classes moyennes. Parce qu'en deux quinquennats, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont ciblé les classes moyennes, et ce sont les classes moyennes qui ont été les vaches à lait de la République.
Voilà donc pour ces réactions politiques. Frédéric Michaud, votre institut OpinionWay analysera les contributions en ligne, devra faire émerger les 15 ou 18 thèmes que les Français ont en tête, ainsi que les pistes qu'ils ont ébauchées. Votre premier rapport, vous le rendez au gouvernement le 11 mars. Est-ce que vous avez déjà des tendances à nous donner ?
Non, aucune tendance. Et puis, évidemment, la primeur des résultats, l'annonce des résultats et du ressort du gouvernement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que et évidemment, beaucoup de données à traiter.
Une forte participation.
Forte participation à la fois pour la réponse à chacun des quatre questionnaires sur la démocratie, sur la fiscalité, sur la transition écologique, sur l'organisation de l'État et des services publics. Quand les Français répondent, ils ne répondent pas à un seul questionnaire, ils répondent en majorité aux quatre questionnaires. Et puis également beaucoup de contributions, vous savez, ce sont les questions ouvertes où les participants ont la possibilité de saisir des textes et d'émettre des suggestions, des propositions, des idées.
C'est pour ça qu'on a parlé de cahier de doléances en tant que tel.
Exactement. D'ores et déjà, en date du 18 février, nous avons comptabilisé plus de 2 millions de verbatim, un verbatim étant une proposition rédigée à l'une des questions ouvertes.
Vous le disiez, il y a quatre thèmes. Lequel se détache ? Vous pouvez nous le dire, ça ?
Non, ça, je ne peux pas encore vous le dire, mais dans une semaine, vous aurez les résultats.
Derrière, bien évidemment, tout l'enjeu, ce sera de savoir ce que ça devient politiquement en termes d'annonces.
C'est tout l'enjeu et c'est même le défi auquel est confronté le chef de l'État. Comment traduire cette multitude de propositions, de suggestions en une dizaine de grandes mesures choc. C'est d'autant plus difficile que les ambitions affichées par le chef de l'État sont très élevées. Ce n'est ni plus ni moins que de refonder le modèle français.
Merci Frédéric Michaud, directeur des études du département Opinion d'OpinionWay, pour ses analyses. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin. Isabelle Falque-Pierrotin, garante du grand débat national, justement, qui sera l'invitée de la rédaction.